BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Chaque semaine, chaque week-end, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et ce week-end encore, eh bien, une émission spéciale après celle de Lyon pour la 250e. Nous sommes en effet ici donc au salon du Made in France, porte de Versailles à Paris. Le salon est donc de retour après l'annulation forcée de son édition 2020. Dans un instant, nous parlerons donc de cette 9e édition avec sa présidente et cofondatrice Fabienne Delahaye. Nous reviendrons notamment sur un des rares côtés positifs de la pandémie. Le retour en grâce du fabriqué en France avec ses enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Autre invité de cette émission spéciale, eh bien, c'est Gilles Attaf. Depuis quelques mois, il préside la certification Origine France Garantie. C'est important, en effet, de savoir vraiment de quoi l'on parle quand on parle du Made in France. Et puis enfin, parmi les 815 entreprises présentes au salon, il a été bien difficile de faire un choix pour mettre en avant quelques chefs d'entreprise qui croient au Made in France. Mais nous nous rendrons tout de même sur trois stands. Les chaussures Chamberlain, c'est Made in Dordogne. La chaussette Made in Aube. Et puis les jeans Tuféry. Made in Lozère.
BFM Business, la France a tout pour réussir.
Bonjour Fabienne Delahaye. Et quel plaisir de se retrouver donc ici en présentiel, porte de Versailles, après l'annulation forcée de l'édition 2020. Votre sentiment de voir autant de stands et autant de monde?
C'est une merveille. Ce salon est une dinguerie. Nous sommes partis en 2012 avec 75 entreprises, 15 000 visiteurs. C'était Espace Champéret. Je vois le chemin accompli avec une super équipe. Mais surtout, un véritable engouement sur la thématique du Made in France, puisque nous accueillons 830 entreprises. Nous attendons 100 000 visiteurs. Je vois une satisfaction, un optimisme et des sourires qui me ravissent.
Et comment se fait le choix des 815 entreprises? Il faut une diversité régionale, il faut une diversité des thématiques. Comment se fait le choix?
Et des secteurs. C'est important d'avoir des entreprises dans tous les secteurs d'activité, ce qui est le cas. Mode, beauté, accessoires de mode, décoration, art de la table, ameublement, gastronomie, bien sûr. On est en France.
Important.
On a même du caviar, on ne s'imagine pas. On fait du caviar en France, en Dordogne notamment. Des pavillons, un pavillon en France aussi que j'ai oublié, et des pavillons régionaux pour découvrir un peu nos territoires. Et cette année, à l'honneur, la Nouvelle-Aquitaine. Vous parliez tout à l'heure
de
chaussures, qui d'ailleurs va lancer avec Noémie Lenoir une collection de bottes. Eh bien, c'est en Nouvelle-Aquitaine et nous saluons toutes les entreprises de Nouvelle-Aquitaine. C'est la région à l'honneur.
Et Noémie Lenoir qui sera notre invitée dans cette émission dans quelques instants. On passe de l'édition de 2012 avec à l'espace Champéret, si je me rappelle bien, avec la difficulté d'imposer le thème et à cette année où tout explose. Et en plus, on est à 5 ou 6 mois de la présidentielle et il y a en plus un fort intérêt politique pour cette thématique.
Le Made in France aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, après 30 ans de désindustrialisation française, est devenu l'industrialisation, la relocalisation, le Made in France est devenu un thème majeur un consensus qui fait un consensus pour les politiques, pour les consommateurs, et le salon qui est un baromètre du marché, on est la preuve vivante.
Mais est-ce qu'il n'y a pas le risque d'un French washing, d'un France lavage, pour parler français, ce côté, on affiche des choses, mais est-ce que derrière il y a une réalité, est-ce que chez les industriels et chez les consommateurs?
Alors à l'impossible, nul n'est tenu, on peut évidemment progresser, mais moi je reste optimiste parce qu'il y a 10 ans, quand effectivement j'ai fait le salon, c'était Made in France, nationaliste, dans le pire des cas, ringard dans le meilleur des cas, mais ça a été très compliqué. Aujourd'hui, ça ne vient plus à l'idée de personne de dire que ce n'est pas prioritaire d'acheter, de consommer sur le territoire. Donc c'est très français ça, le French washing. Il faut toujours qu'on tire une balle dans le pied.
Absolument.
Mais non, le Made in France, c'est quelque chose de formidable.
Gilles Attaffe, cette évolution de l'image du Made in France, vous êtes, on va parler dans quelques instants de la certification Origine France garantie, mais vous-même, vous êtes un industriel, vous produisez en France des costumes depuis longtemps. C'est compliqué d'imposer, ça a été compliqué d'imposer cette thématique de produire en France.
Alors ça a été compliqué, mais aujourd'hui on sent qu'on est porté par les consommateurs. Il y a une envie de vraiment de consommer mieux, mais moins des produits de qualité, savoir comment ils sont fabriqués, dans quelles conditions. Et donc le consommateur, il a vraiment aujourd'hui envie de consommer différemment. Donc aujourd'hui, le Made in France, c'est naturel. Vous voyez un peu cet engouement pour ce salon, c'est formidable. Hein. Fabienne disait, on était 80 en 2012, on est 800 aujourd'hui. Il se passe vraiment quelque chose. C'est pour ça d'ailleurs que vous posez une question à Fabienne sur les politiques. Aujourd'hui, ils sont bien obligés de se rendre compte que ça bouge, qu'il faut que les lignes commencent à bouger, les paradigmes sont différents et vraiment, on sent qu'il se passe quelque chose. Vous avez envie aujourd'hui de participer à quelque chose, de donner un sens à vos achats, quoi. Je pense que c'est ça le vrai sujet. On a envie de donner un sens à ces achats. On a envie de participer à quelque chose qui a du sens. Et ça a beaucoup changé. Il y a 10 ans, comme le disait Fabienne, c'était pas du tout le cas. Et donc, on sent que cet engouement est en marche. Et qu'en plus, le Made in France aujourd'hui est vraiment intéressant puisque l'écologie est venue aussi. Je veux dire, il y a une convergence. C'est-à-dire que quand vous fabriquez
local,
vous fabriquez, voilà. Effectivement, c'est plus vertueux. La fabrication, le circuit court. Donc tout ça fait que tout le monde se pose les bonnes questions. Enfin, je dirais, parce que vous savez, on a quand même été dans un pays où on nous a dit que l'atelier du monde serait en Chine et que la France serait un pays tertiaire. Donc tout ça aujourd'hui commence à se mettre en place. Et je pense que c'est parti, enfin, on a cette prise de conscience. Maintenant, il faut se donner les moyens de continuer. Ça, c'est aussi important.
Et la question
surtout, il faut être très clair. La certification Origine France garantie est la seule qui garantit que le produit soit réellement fabriqué sur le territoire français.
Sur quels critères? Alors, comment est-ce qu'on obtient cette certification?
Alors, la certification Origine France garantie, c'est pas déclaratif. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un audit qui est fait par des organismes indépendants comme l'AFNOR ou comme Veritas qui font un audit du produit, puisque nous, on certifie l'origine d'un produit. On certifie des gammes de produits. Et on a un audit qui est fait très, très sérieux où il faut avoir 50% de la valeur ajoutée française, donc du prix de revient du produit. Et puis surtout que toutes les caractéristiques essentielles du produit aient été prises en France. C'est-à-dire que la fabrication doit être totalement faite sur le territoire français. Et ça change tout. Hein. Et vous parliez du French washing, moi je vais vous parler du franco-lavage parce que l'image de la marque France aujourd'hui a beaucoup d'importance. On se rend compte que la marque France a de la valeur. Donc tout le monde veut s'emparer de la marque France et des marques qui ne fabriquent pas en France. Donc la certification garantit aux consommateurs que le produit est réellement fabriqué sur le territoire français.
Et la certification, c'est quoi? C'est un label, c'est un logo, c'est obtenu pour combien de temps?
Alors on l'obtient pour 3 ans, mais chaque année il y a sur pièce on refait aussi un audit. Hein. Alors c'est sur site tous les 3 ans et tous les ans c'est effectivement sur pièce. Mais on ne l'obtient pas facilement puisqu'il faut que l'audit ait validé le fait d'avoir la certification. Donc on l'a avec un numéro qui nous est propre, hein, puisque la certification, on est obligé d'utiliser le logo Origine France Garantie avec son propre numéro de certification. Tout ça pour rassurer le consommateur. Nous, ce qu'on veut, c'est que le consommateur puisse consommer en toute transparence. Après, il fait ses choix.
Et
quand il consomme du français, c'est vraiment du français.
Et il consomme à un prix un peu plus élevé. Est-ce que l'acceptation est aussi en train de faire son chemin? L'acceptation
alors,
du prix.
Alors, vous savez, moi, je pense qu'on consomme, de toute façon, on a envie de consommer moins, mais mieux des produits de qualité qui durent. Donc de toute façon, le consommateur a cette prise de conscience aujourd'hui qu'un produit français, c'est un produit qu'on va pouvoir réparer, qu'on va pouvoir upcycler. Donc tout ça, ça fait partie de cette mouvance de toute façon de consommation qui est complètement différente. Et vous savez, moi j'ai une formule toujours facile, mais qui achète chinois, achète 3 fois. Il vaut mieux acheter moins, mais mieux, des produits de qualité.
Un mot, Fabienne, encore voilà, sur cette thématique du prix ou sur une autre thématique.
J'aurais plein de choses à dire sur la problématique du prix. Déjà, il y a tout un tas de produits fabriqués sur leur territoire qui ne sont pas plus chers. Sur le salon DOP, ce sont les shampoings au litre les moins chers du marché. Ils sont fabriqués en France, en Île-de-France, à Rambouillet. Et ce sont les inventeurs, d'ailleurs, du shampoing. Il y a 1083 qui sort des jeans à moins de 100 euros. Parfois, j'ai envie de vous dire, on n'a pas les moyens d'acheter Made in China ou Made in ailleurs avec des marques extrêmement chères. Je ne citerai pas des marques de jeans, mais très très chères, bien plus chères que les vêtements qu'on trouve ici. Par ailleurs, la question du prix, J'ai d'autres choses à dire. Quand vous parlez, par exemple, de produits allemands, on parle toujours de la qualité. C'est associé à Made in Germany. La question de prix n'est jamais abordée.
Oui.
En France, je vous disais, quand on se tire toujours une balle dans le pied, il faut toujours qu'on associe quelque chose de négatif.
Absolument.
Mais les produits français sont aussi de très, très bonne qualité. D'ailleurs, quand on parle parfois, on est critique sur certains véhicules dits français, ils ne sont plus fabriqués en français.
Ouais,
soi-disant véhicules de French Touch. Enfin, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, ce franco-lavage, parce que ça veut dire que ça fait vendre. Parce que je vous assure qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'était le contraire. Je pense à Weston, par exemple, tout le monde pensait que c'était anglais, alors que ce sont des chaussures fabriquées à Limoges,
à Limoges.
$1. Aujourd'hui, c'est le contraire. Même quand on ne produit pas français, on parle de French Touch pour faire croire que des produits qui ne le sont pas. Alors, je suis optimiste, je pense que c'est une bonne nouvelle, justement. Quand les services marketing s'emparent d'une cause, c'est qu'il y a une raison.
Et vous considérez que votre combat que vous avez lancé donc, il y a une dizaine d'années, il est quoi là? Il est à une étape ou est-ce qu'il est abouti?
Rien n'est jamais abouti totalement, vous savez bien. Nous allons nous développer, nous serons avec Origine France Garantie d'ailleurs à Bordeaux les week-ends du 11-12 mars. Et puis nous serons à Lyon en 2022, en mai. Donc on se développe avec toujours plus de Made in France et toujours plus de consommateurs.
Donc c'est la bonne nouvelle des délocalisations, des futures délocalisations du salon du Made in France. C'est l'annonce que vous nous faites. Merci beaucoup Gilles Attaf.
Merci
beaucoup Fabienne Delahaye d'avoir été les invités de la France à tout pour réussir. Un grand merci donc aussi aux équipes d'Origine France Garantie qui nous ont prêté ce studio, à toutes les équipes techniques également de VL Média. Et tout de suite, eh bien, avec Jeanne Spicarolen à la caméra, eh bien, on va aller à la rencontre de trois entreprises, l'une qui produit des chaussettes dans le département de l'Aube, l'autre des jeans en Lozère, mais tout d'abord Chamberlain qui produit des chaussures pour femmes et sur mesure, c'est en Dordogne. On les retrouve dans les allées du salon tout de suite. Et en effet, direction la Nouvelle-Aquitaine, c'est, vous le savez, donc la région mise à l'honneur pour cette édition 2021 du Salon du Made in France. Précisément, donc, direction la Dordogne, le Périgord vert. C'est là qu'est installée depuis 2015 l'entreprise Chamberlain, qui a été créée en 2015 à Saint-Martial-de-Valette. Et nous sommes en compagnie de la cofondatrice de Chamberlain. Bonjour, Sophie Angster.
Bonjour.
Le cœur d'activité de Chamberlain.
Alors, nous, on est spécialisé dans la confection de souliers sur mesure et personnalisables.
Alors donc, vous avez lancé l'entreprise en 2015. Pour vous, c'était un changement de vie. Vous étiez, je crois, pendant 10 ans dans le groupe LVMH. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette aventure?
Alors moi, j'ai toujours rêvé d'entreprendre. Après, il fallait trouver la bonne idée, en fait, pour oser quitter un groupe tel que LVMH. Et j'ai eu un bébé et j'ai rencontré, en fait, mon futur associé, Franck Lefranc, à la crèche de mon fils. Il me voit arriver avec des talons improbables d'une grande maison dans laquelle j'ai travaillé. Il me dit comment c'est possible que les femmes aient mal encore aux pieds aujourd'hui alors qu'on est capable d'innover dans plein de domaines. Et c'est de là qu'est partie l'idée, en fait.
Donc c'est de là qu'est partie l'idée. Comment cela vous a amené en Dordogne? On pense plutôt à la Drôme spontanément quand on pense à la chaussure, notamment chaussure de luxe. Pourquoi la Dordogne?
Alors c'est vrai qu'on a exploré plusieurs régions qui avaient encore un savoir-faire dans la chaussure, donc elles sont rares. Et on a trouvé en Dordogne un dynamisme incroyable sur toute la filière cuir et luxe. Et on a été ravis de s'implanter là-bas.
Et puis un soutien important aussi des élus locaux, des collectivités locales dans votre projet.
Oui, tout à fait, que ce soit du maire de Nontron qui nous a loué un local à un prix défiant toute concurrence jusqu'au président de la Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, qui s'est déplacé pour l'inauguration de notre atelier. On a eu un soutien incroyable à tous les niveaux et tous ces gens-là nous ont aidés vraiment dans la formation du personnel, dans le recrutement.
Le personnel aujourd'hui, c'est combien de personnes?
On est 16 personnes chez Chamberlain.
Sur un site de quelle superficie et qui produit combien de paires par an?
Alors, on a un site qui fait plus de 1000 m². On a déménagé l'année dernière en plein Covid. Et alors, le nombre de paires, ça change, ça fluctue tous les mois. On est en pleine croissance, donc c'est difficile de vous dire.
C'est le plus important d'être en pleine croissance. Au niveau de la vente, quels sont vos canaux de distribution?
Alors, notre site e-commerce, notre boutique parisienne. Et on a un réseau de revendeurs qui commence à se développer dans le monde. Que ce soit des concept stores dédiés au Made in France, comme aux États-Unis ou à Shenzhen. Ou alors des créatrices de robes de mariée, en fait, qui adorent nos souliers.
Le prix, quelle est la gamme de prix de vos produits?
Alors, on est entre 300 et 600 euros.
Si c'est personnalisé ou sur mesure, hein.
Voilà, on démarre à 300 euros pour une paire en prêt-à-porter personnalisée. Et il faut compter 300 euros additionnels pour une paire en sur mesure.
et puis nouveauté 2021. Donc c'est une botte qui se trouve juste derrière vous. Particularité de cette botte, qui l'a créée? Il y a quelque chose, une belle histoire derrière.
Alors on a fait une très belle rencontre l'année dernière. On a rencontré Noémie Lenoir qui avait le projet de créer une botte d'été. Donc c'est une botte atypique, très jolie. Et c'était vraiment important pour elle en fait de fabriquer cette botte en France. On a eu un vrai coup de cœur et du coup ça fait un an qu'on travaille sur le projet. On est ravis de lancer la Tosca aujourd'hui sur le salon.
Elle s'appelle la Tosca et donc on va retrouver d'ailleurs Noémie Lenoir tout de suite sur BFM Business. Bonjour Noémie Lenoir.
Bonjour.
Et en effet, donc merci d'être sur BFM Business, dans la France à tout pour réussir. Racontez-nous votre histoire avec cette botte dont on vient de parler avec Sophie Angster, cette botte La Tosca.
Alors La Tosca, je l'ai imaginée depuis quelques années dans ma tête. J'ai rencontré Sophie après avoir fait maintes entreprises pour la mettre en vie, cette botte. Et du coup, c'est une histoire de... Ça fait un an qu'on travaille dessus, mais elle trotte dans ma tête depuis environ 3 ans. Et je suis une fan inconditionnelle de bottes et je ne vois jamais des bottes l'été. Je vois toujours des grosses bottes en cuir. Les femmes, on regarde toujours en disant, disons, comment elle fait pour mettre des bottes en cuir l'été? Et du coup, j'ai eu l'idée de faire une botte tressée, aérée, qu'on puisse porter mi-saison et en été.
Et racontez-nous donc aussi l'implication de Casa 93 dans ce
alors,
projet. C'est quoi Casa 93?
Alors Casa 93, c'est une école qui se trouve en banlieue, une pépinière de talents qui forme les jeunes avec à la fin un certificat, un diplôme, qui les certifie dans tout ce qui est de la mode, qui fait stylisme, couturier, patronage des vêtements, dont une des personnes, Sandy, qui a fait le patronage de ma botte. Je lui ai raconté l'histoire de ma botte, je lui ai dit ce que je voulais avec ma botte, que je voulais une botte tressée, que je voulais des sangles autour, et elle me l'a dessinée. C'était important pour moi de faire appel à Casa 93, car c'est une école de banlieue. Et venant de la banlieue, c'était important pour moi qu'elle commence son histoire comme ça.
Très belle histoire. Donc, merci beaucoup, Noémie Lenoir, d'avoir été notre invitée. Et après donc la Nouvelle-Aquitaine, eh bien, on va dans le Grand Est, direction même la Champagne. Et on continue donc notre promenade dans les allées du salon du Made in France. Et après donc la chaussure de Dordogne, on va s'intéresser à la chaussette de l'Aube. Nous sommes en compagnie de Benoît Seguin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le PDG de Tismail, la chaussette de France. Alors racontez-nous d'abord l'histoire de ces deux groupes. Tismail, un groupe plus ancien, et la marque La Chaussette de France, créée plus récemment.
Oui, tout à fait. Alors Tismail, on est l'un des derniers fabricants de chaussettes en France. On est basé à Troyes depuis 1961. On compte une cinquantaine de collaborateurs. Donc on a su braver un petit peu toutes les grandes délocalisations qu'a connues la France et l'industrie textile fin des années 90, début des années 2000. Nous travaillons essentiellement, donc au départ notre métier c'est vraiment fabriquer des chaussettes pour des marques ou d'autres marques. Et donc nous travaillons sur 4 segments. Le premier segment c'est les marchés publics, où nous faisons et nous sommes très fiers de fabriquer les chaussettes de l'armée française. On travaille pour la police, la gendarmerie, la poste. Ensuite, nous travaillons sur un second segment de marché, que sont la grande distribution et les grands magasins, donc toujours à leur propre marque. Ensuite, nous travaillons pour des enseignes spécialisées, donc nous avons beaucoup de clients ici, exactement. Et on est fiers de voir qu'il y a une effervescence autour de la fabrication française et surtout de la chaussette en général. Et puis en 2013, nous avons lancé notre propre marque qui s'appelle La Chaussette de France. Au départ dédiée sur l'outdoor, donc on a lancé une fabrication de chaussettes de ski. Ensuite on est parti sur le running, le trail, la randonnée. Et depuis quelques mois, nous avons diversifié notre offre et nous faisons des chaussettes, on va dire, de ville, de tous les jours, plus classiques, toujours sur un niveau de qualité extrêmement haut. On a investi dans des nouvelles machines qui permettent de faire des chaussettes vraiment très fines, très précises. Et puis associé à ça, on met beaucoup de matières premières très nobles et très vertueuses pour le pied, mais en grande majorité.
Et quelle est la production globale du groupe
Alors,
Tismail?
Tismail, on fabrique à peu près 3 millions de paires de chaussettes par an. Et la Chaussette de France aujourd'hui représente 20% de notre activité. Donc on est très fiers déjà d'avoir notre propre marque. Et on est très fiers aussi puisque nous avons ouvert notre première boutique le 15 juin à La Rochelle, qui s'appelle La Chaussetterie de France.
Et d'autres suivent, dont une il y a dans quelques jours.
Exactement, on ouvre à Lyon, donc une boutique à Lyon, 4 rue Émile Zola, mercredi prochain, le 17 novembre. Et puis nous allons ouvrir fin novembre une boutique à Arcachon. Et on a beaucoup d'autres projets, et notamment, on espère, Lille, premier trimestre 2022.
Alors, qui dit chaussettes de France, fabrication 100% française, c'est marqué sur votre stand, dit forcément des prix un petit peu plus chers. Est-ce que le consommateur est prêt à vous suivre sur cette thématique du prix?
Oui, alors le prix, effectivement, on n'a pas les mêmes charges et je ne veux pas aller sur le débat que voilà, on a une main-d'œuvre beaucoup plus chère que des pays à bas coût ou de très lointains. Aujourd'hui, nous, on a décidé de faire des chaussettes et des produits de qualité avec une valeur ajoutée, aussi bien dans la technique de tricotage que sur les matières.
Sur le sourcing des matières premières.
Exactement. Donc ce sont des matières, voilà, comme vous pouvez le voir là par exemple, on fait des chaussettes en cachemire soie à hauteur de 60%. Et donc aujourd'hui, si on fait des chaussettes à l'identique que ce que font des pays asiatiques, on n'a aucun intérêt, on n'aura aucune légitimité. Donc on a décidé vraiment de partir sur de la valeur ajoutée. Donc toutes nos chaussettes sont en jauge 18, sont en 200 aiguilles, donc ça permet vraiment aux chaussettes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'avoir une finesse, une précision. Ensuite, le remaillage, donc le bout de la chaussette est cousu donc d'une façon de... C'est remaillage maille à maille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surépaisseur. Et puis voilà, sur toutes nos chaussettes, aussi bien techniques que classiques que de ville, on utilise des matières vraiment très nobles et très vertueuses pour le pied. Donc on utilise du cachemire, de la soie, de la laine, de la biocéramique, on utilise du friction free qui permet, qui empêche les ampoules, etc. Donc il y a toujours une valeur ajoutée importante dans le produit.
Le nombre de salariés sur votre site?
Alors on est une cinquantaine de salariés sur l'usine A3 qui tourne en 3-8, donc 5 jours sur 7. On a un établissement secondaire à Annecy qui est un petit peu le siège social de la chaussette de France et on est au pied des montagnes et ça nous permet de diffuser la marque dans beaucoup de stations de sport d'hiver et donc on est très heureux parce qu'elles ouvrent cette année.
En un mot, donc si on vous avait dit que le textile de France reviendrait, alors c'est lent, c'est progressif, mais qu'il y a quelques années on pensait que le textile était définitivement mort en France, qu'est-ce que vous inspire ce renouveau du textile français?
Alors moi je trouve ça génial, hein, je pense qu'on est tous là et on voit l'effervescence autour du Made in France et du salon. Aujourd'hui nous on défend le Made in France depuis 60 ans. Alors à l'époque c'était Monsieur Montebourg qui avait en portant la
marinière. Il n'est pas très loin avec son stand bleu blanc ruche.
Exactement. Il avait un peu démocratisé avec le ministère du redressement productif. Donc aujourd'hui on sent des grands faiseurs, des grands distributeurs revenir un petit peu sur le Made in France. Donc entre les paroles et les actes, il va falloir encore avancer un peu plus. Mais aujourd'hui on parle de RSE, donc de responsabilité sociétale des entreprises, on parle de développement durable, on parle de bilan carbone, on parle d'achat responsable. Et aujourd'hui les gens, voilà, ils sont intéressés à savoir où est-ce que fabriquer la chaussette, parce qu'avant tout nous, avant de vendre des chaussettes, on vend une histoire. Et notre histoire, elle a 60 ans. Il y a eu des générations qui ont fabriqué des chaussettes il y a 60 ans.
Et vous reprenez le flambeau.
Il y a des générations futures. Et donc, c'est ça qui est génial. Et puis, en plus, moi, je suis très fier de mon entreprise. Et on est très optimiste sur l'avenir.
Merci beaucoup, Benoît Seguin, donc, d'avoir été l'invité de la France à tout pour réussir. Et donc, après l'aube, on va finir cette émission dans le département de la Lozère avec l'atelier Tuféry qui fabrique des jeans depuis 1892. 1892 en effet, cela fait donc près de 130 ans qu'on fabrique des jeans en France et précisément donc dans le département de la Lozère, dans le sud de la Lozère, dans la partie des Cévennes. Et on va en parler avec Julien Tuféry, bonjour.
Bonjour Monsieur Tichet, bienvenue dans notre univers du salon.
Merci beaucoup et donc vous êtes la quatrième génération donc de cette entreprise née à la fin du 19e siècle. Vous avez repris quand l'entreprise et quel était son état à ce moment-là?
Alors nous on a repris dans quatrième génération, on a repris donc avec ma femme, on a repris dans les années 2015 et à l'époque c'était une entreprise qui était vouée à normalement disparaître.
Comme beaucoup d'entreprises du textile
France. Déjà c'était un petit miracle qu'elle ait pu résister à ces années du 80, 90, 2000, 2010. Et on a récupéré une entreprise qui allait entre guillemets naturellement s'éteindre, mais qui était en ébullition de savoir-faire, de filières courtes, de filières locales. Et donc on a su redynamiser tout ça, on a su sortir un petit peu de nos professions d'avant avec ma femme et on a redynamisé tout ça en passant par une première priorité absolue, celle de consolider le savoir-faire sur nos terres de Lozère en Cévennes.
Mais comment quand on est un jeune homme, une jeune femme aussi, on sort d'une belle école, on a un beau poste, je crois que vous étiez chez Veolia Environnement.
C'est ça.
Pourquoi on se dit tiens, je vais aller dans un secteur qui à ce moment-là était en plein déclin quand même?
Alors c'est sûr que la plus belle réussite de mon père, c'était que son fiston soit bon à l'école et ne devienne surtout pas artisan du jean, puisqu'encore une fois, il y a ne serait-ce qu'il y a 15 ans, qui parlait de Made in France, qui parlait de local, qui parlait d'éco-responsabilité? Absolument personne. Donc forcément, fils artisan dans le textile, c'était absolument super, la grande carrière d'ingénieur. Mais quand même, enfin, on fait partie de cette génération, on se pose quand même beaucoup de questions sur les modèles économiques, sur les modèles environnementaux, sociétaux. Et là, on avait juste, avec une étude économique un peu poussée, tous les facteurs clés de réussite pour proposer un entrepreneuriat assez innovant sur plein de choses, on y reviendra. Et donc, ben, on prend son petit courage à deux mains, on abandonne nos super carrières et on relance les manufactures. Mais je ne vous cache pas, si on l'a fait, M. Tichet, c'est que l'étude était, économique était quand même, les voyants étaient ouverts.
Et en 6 ans, quel est le bilan que vous en faites? Est-ce que ça répond à tout ce que vous attendiez, et notamment en termes de valeur?
Alors oui, alors en termes de valeur, forcément, alors nous c'est pareil, tout est dicté par les valeurs. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a une réalité économique qui doit être très performante, très, très prédominante.
Elle l'est?
Elle l'est, bien évidemment, sinon on ne pourrait pas construire tout ça. Mais donc du coup, les valeurs d'abord, bien évidemment. Mais surtout cette notion, voilà, cette notion de fabrication. Donc en 6 ans, on est passé, donc quand on a repris l'entreprise, c'était 3 salariés, mon père et mes 2 oncles. Aujourd'hui, en emploi direct, on est 25. Il y en a au moins tout autant sur nos filières partenaires. 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et oui, très forte croissance. Mais une croissance qui est forcément, qui doit être raisonnée, raisonnable. Parce que les jeans ne tombent pas du ciel. Et si on veut les vendre, il faut les fabriquer. Donc il faut développer des outils de fabrication. Et le temps de l'artisanat, de la formation, est hélas beaucoup plus lent que le temps de la vente et on va dire de l'émulation du Made in France. Et qui va très vite.
Et le temps, c'est de l'argent, donc ça veut dire des produits aussi un peu plus chers ou même plus chers. Est-ce que les consommateurs vous suivent si vous leur expliquez bien ce qu'il y a derrière ce prix un peu plus élevé?
Alors c'est ce qui impressionne quand même beaucoup l'équipe, là, l'équipe de vente, c'est qu'on est, on est très peu challengé sur le prix. Alors c'est super. Ça ne veut pas dire qu'on va à des prix qui sont déraisonnables, mais c'est vrai que j'adorerais vendre des produits moins chers. Mais en fait, j'en suis incapable. Pour la simple et bonne raison que le développement des manufactures en France, les investissements immobiliers, bon, mais c'est très cher. La formation, chez nous, on a une formation. Une personne de polyvalence sur le poste de couture chez moi, c'est 1,5 ans de formation. Donc, ça a des coûts qui sont colossaux. Donc, tout ça, ben, forcément, on est obligé de l'impacter. Mais ce qui est formidable ici, dans cet environnement de la grande messe du Made in France, les consommateurs sont conquis de ça. Et cette toute petite frange de la population qui est en adéquation avec ça, ben, on s'aperçoit en fait que d'année en année, elle grossit. Et on va vers cette consommation plus responsable. On achète moins, mais on achète mieux. Et ça, c'est juste génial, parce qu'en fait, Monsieur Tichet, on revient à des notions de bon sens dont on a tous besoin, la société, la planète et les consommateurs.
La 5e génération Tufferi, elle est bientôt là?
Alors la 5e génération a été confectionnée. Elle a aujourd'hui, 2 ans et demi et 2 mois. Donc revenez dans 20 ans et on verra si la 5e reprend le flambeau. Mais en tout cas, voilà, on a des super challenges à relever pour les prochaines décennies. Et je pense qu'en tout cas, on se fait un point d'honneur à construire des choses durables, écologiquement, sociétalement et surtout économiquement, ce qui est quand même le nerf de la guerre.
Eh ben, c'est ce qu'on vous souhaite et c'est ce dont on parle régulièrement sur BFM Business. Merci beaucoup,
merci
Julien Tufferi, d'avoir été donc l'invité de cette émission spéciale ici au Salon du Made in France. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une autre émission spéciale consacrée à la 17e édition des BFM Awards. On met à l'honneur les grandes réussites de l'économie française, vous le savez, chaque année depuis donc 17 ans. La cérémonie aura lieu mardi soir à partir de 20h. Ce sera à la Pyramide du Louvre avec Christophe Jacubizine et Sandra Gandouin. Sandra qui sera mon invitée la semaine prochaine pour débriefer en quelque sorte cette soirée des BFM Awards. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission spéciale de La France à tout pour réussir. Très belle semaine et à bientôt sur BFM Business.
BFM Business, La France à tout pour réussir.